Vous écoutez
RMC. Les fortes têtes.
À 8h12, cela dit, vous êtes bien réveillés, je pense, pour la plupart d'entre vous. C'est l'heure des fortes têtes et justement, vous êtes bien réveillés, bien passionnés par le débat du jour. Vous êtes nombreux à réagir depuis ce matin. Il fait très chaud, trop chaud et surtout trop tôt. Est-ce qu'il faut, du coup, prendre des mesures radicales? Est-ce qu'il faut d'abord prendre des décisions, ne plus prendre l'avion, ne plus utiliser la clim? Et puis, est-ce que vous comprenez les militants qui ont des actions radicales, coup de poing? L'une d'entre elles était avec nous tout à l'heure à 7h40, qui défendait les actions comme celle d'Extinction Rebellion qui a pendant plusieurs semaines bloqué le centre de Paris pour manifester contre le réchauffement climatique, ou bien cette militante qui s'est enchaînée en plein match au filet de Roland-Garros. Je ne suis pas sûre que ça vous plaise beaucoup, Thierry Coste. Bonjour.
Bonjour, Apolline.
Thierry Coste, notre forte tête du jour. Vous en pensez quoi, vous ?
Je pense qu'ils ont un comportement débile sur un sujet... sur un sujet qui est grave. Donc, mais c'est toujours comme ça. Ils n'ont aucune responsabilité sauf celle de provoquer. Or, provoquer pour faire prendre conscience, c'est une chose. Mais la réalité de la sécheresse, c'est une réalité qui est beaucoup plus lourde que ça. C'est une réalité où il faut s'adapter. Il faut adapter la végétation, il faut tout adapter quand on est dans une situation un peu compliquée.
Oui, mais c'est une question de rythme, là. C'est, est-ce qu'on va assez vite, est-ce qu'on en fait assez?
Non, mais nécessairement, on le fera. Regardez, on dit il faut planter des arbres dans les centres-villes. Pardonnez-moi, vous plantez des arbres dans les centres-villes, il ne faut pas les s'enchaîner à des grilles, il faut les planter, et ils vont mettre 15 ans avant d'être effectivement efficients pour baisser la température dans les centres-villes.
Mais il y a eu une forme de péché d'hubris, enfin pardon, mais c'est vrai, ce péché d'orgueil, quand on en parlait tout à l'heure avec Géraldine, qui nous disait que la température était parfois une différence de 2, 3, 4 degrés entre différents quartiers d'une même ville, entre les quartiers anciens, où on avait la modestie de penser qu'il fallait sans doute se protéger du soleil et de la chaleur, et où on construisait des voies plus étroites, des murs plus larges, et puis les grands centres d'affaires où on a fait des tours, où on a pensé qu'il suffisait de fabriquer une clim à l'intérieur et de plus avoir à ouvrir les fenêtres.
Apolline, vous avez raison. On a pensé pendant longtemps que la nature n'allait la maîtriser. Donc, le soleil, la pluie, les inondations, tout était maîtrisable. On a plein de technos qui nous ont expliqué ça. Aujourd'hui, la réalité, elle est que, effectivement, quand on fait des grandes fenêtres, parce qu'avant, on avait des toutes petites fenêtres, mais il faut s'adapter. Soit on met beaucoup plus de clim, soit il faut mettre des volets, on est obligé de revoir complètement nos aménagements. Donc c'est pas les excités écolos qui vont nous faire changer d'avis, c'est juste qu'on a compris. Aujourd'hui, on le voit bien, on a un débat. La pelouse qui était un modèle unique, aujourd'hui on se dit, ah nul, il y a plein de pelouses où qui peuvent sécher l'été et être toutes jaunes, et à l'automne, à partir du mois de septembre, elles reprennent, pas de problème. Regardez, même les golfs, qui sont soi-disant des endroits où on consomme énormément d'eau, maintenant, on arrose juste l'endroit au centre et on modifie la végétation.
Vous savez, donc, quoi, vous savez quoi, Thierry, une vraie stratégie. Vous disiez faut planter des arbres. Bah, Delphine, elle a voulu le faire. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Delphine, vous nous appelez depuis la Vendée, vous êtes à Luçon, c'est ça?
C'est ça.
Vous avez proposé à votre mère de planter des arbres, qu'est-ce qui s'est passé?
Je lui en ai parlé parce que j'étais émue de voir qu'on a, par exemple, la place des acacias où il n'y a plus d'acacias. Tout a été retiré pour être pétrolisé, entre guillemets, puisqu'il n'y a que du minéral, de la jolie pierre blanche. Alors, c'est très beau, hein, mais une grande esplanade.
Ça s'appelle encore place des acacias?
Ça s'appelle toujours place des acacias.
C'est un paradoxe.
J'ai une grande esplanade avec un banc, pas d'ombre. Ça renvoie de la chaleur. Et voilà, résultat, le maire m'a dit, malheureusement, on ne peut pas végétaliser ça parce que ça coûte trop cher en entretien, les arbres.
Ah bah voilà. Donc,
je trouve ça dommage. Alors c'est vrai qu'il y a, des notions économiques, mais ça apporterait de la fraîcheur l'été, des oiseaux, un cadre de vie agréable, parce que tout minéral, c'est pas beau. C'est dommage, c'est vraiment dommage.
Il fait combien, Delphine, en ce moment?
C'est une politique depuis des années et des années et des années.
Delphine, il fait combien, là, chez vous?
Là, ce matin, ça va, il fait encore une grosse vingtaine de degrés, ça va vite monter.
Mais au cœur de la journée, effectivement, la place des acacias, comme elle s'appelle encore, elle sera bien chaude. Delphine, restez avec nous. Damien voulait également réagir. Bonjour, Damien.
Oui, bonjour Apolline.
Damien, vous appelez des Hautes-Alpes et vous vouliez réagir notamment aussi à l'échange avec la militante Sacha, qui est militante d'Extinction Rebellion notamment.
En fait, effectivement, je pense qu'effectivement, ce qu'on peut proposer, c'est un peu trop extrême. Mais c'est un peu comme quand on se brûle. On se brûle et on essaye de soigner sa brûlure. La brûlure, c'est quelque chose de très profond. Moi, ce que je voulais dire, je voulais témoigner. cette chaleur qu'on a ici, c'est répercuté de partout dans le monde entier. Oui. Et la semaine dernière, j'étais en Alaska, sur la péninsule du Katmai.
Vous êtes caméraman, hein, c'est ça, Damien ?
C'est ça.
Donc vous alliez tourner là-bas ?
Pour filmer les grizzlies, qui sortaient justement de l'hibernation.
Ouais.
Et en fait, il faut savoir que bon, c'était l'Alaska du Sud. Hein. Mm-hmm. Et en fait, en Alaska, on va dire que l'été chez eux, c'est juillet-août. Mais okay. juste deux mois où on peut, on va dire, eux, ils ont le cuir solide. Ils se mettent en t-shirt sur des températures que nous, on a voilà, encore un sweat. Mm. Et j'y étais donc au courant du mois de mai.
Oui.
Et au mois de mai, chaleur incroyable. Ouais. Des gens étaient déjà en t-shirt, en short. Ouais. Et on était dans le wild aussi le plus complet. Et dans la nature, on voit qu'effectivement, il y a un gros problème car les endroits où il y avait de la neige récemment, il n'y a plus de neige. La neige recule aussi là-bas. Alors, c'est le sud de l'Alaska.
En fait, vous l'avez palpé, vous l'avez touché du doigt. C'est vrai que vous l'avez vu de vos yeux en Alaska.
Tout à fait. Et même pour vous dire, hein, ça pose des soucis. Il y a des nuées de moustiques incroyables. Mmh. Incroyables. Ça fait. Les animaux, bah, ils sont même, on va dire, un peu perdus parce que. Ils ne comprennent pas. Et ce que je voulais vraiment témoigner sur le fait que même dans des endroits éloignés, dans la nature, parce que là, on parle de la ville, il faut planter des arbres, mais il faut savoir que dans la nature, vraiment la vraie nature, là aussi, ça se fait ressentir. Et c'est vraiment très, très impressionnant pour l'avoir vécu. Et ça fait vraiment réfléchir, d'ailleurs.
Damien, sacré Damien. Témoignage. Oui. C'est vrai que c'est rare qu'on aille dans des endroits aussi éloignés et qu'on en ait les signes tangibles. Thierry Coste.
Oui, mais il n'y a pas besoin d'aller si loin. Damien a raison, mais on n'a pas besoin d'aller si loin. On le voit bien. Mmh. On a aujourd'hui des feux de forêt qui se développent partout. Moi, j'ai bossé pendant 20 ans sur les feux de forêt, sur la stratégie des forestiers et des pompiers. C'est une évidence. Aujourd'hui, on doit adapter les végétaux. On le voit bien, quand il y a 2 ou 3 ans de sécheresse, vous avez des chênes qui sont très bien enracinés, qui meurent. Donc vous vous posez des questions. Mmh. C'est pour ça qu'il faut aussi, bien sûr qu'il faut aller plus vite, mais en même temps, il faut être réaliste, on doit changer les pratiques. Aujourd'hui, si on n'a pas de coupe-feu, et si on interdit de toucher à la forêt. Quand on interdit de toucher à la forêt, on a des grands feux qui peuvent faire 2000, 3000, 4000 hectares. Sitôt qu'on a des vignes au milieu, parce qu'on a accepté de produire de la vigne, alors que c'était pas autorisé dans ces endroits-là, on a des coupe-feux et on arrive à maîtriser correctement. Donc on a à revoir complètement notre façon de fonctionner en matière agricole. Bien évidemment qu'il y a des plantes qui sont trop consommatrices d'eau et on va progresser. Et on progresse assez vite, contrairement à ce qu'on croit. On le voit bien, quand vous êtes jardinier, aujourd'hui, vous n'arrosez plus avec un oscillateur qui vous mouille tout. En pleine journée, vous avez du goutte à goutte. Le goutte à goutte, c'est super efficace
c'est beaucoup moins consommateur.
Et c'est beaucoup moins consommateur. Donc, il faut changer. Et c'est pareil pour le comportement des individus. Jeter son mégot de cigarette ou laisser traîner une bouteille en verre qui, résultat, peut provoquer un feu. Désolé, c'est quand même.
On l'oublie trop et c'est très important.
C'est un feu sur deux.
Parce qu'en fait, on a évidemment en tête les mégots, on pense moins à la bouteille en verre. Et c'est vrai que chaque tesson de bouteille ou chaque bouteille en verre fait un effet loupe et peut provoquer un départ de feu. Damien, restez avec nous. Je voudrais que Nathaniel puisse également s'exprimer. Bonjour, Nathaniel.
Oui, bonjour, Pauline.
Vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques. Routier, mais militant écolo, c'est ça?
Alors en fait c'est un peu plus complexe que ça,
dites-moi.
On parlait beaucoup de Toulouse ce matin, Pauline.
Ouais.
J'habitais à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse, j'ai déménagé il y a 6 mois pour aller me mettre au vert, comme on dit, pour aller vivre. J'habite à la ferme en fait. Ma femme est fille d'agriculteur.
D'accord.
Donc, j'habite dans une grande ferme dans le Béarn. Voilà.
Ok.
Alors je fais juste une petite pause avant de commencer.
Allez-y.
Monsieur Thierry Coste, que j'entends dire désexcité, etc. Alors je tiens bonjour monsieur d'ailleurs.
Bonjour.
Je tiens à vous dire quelque chose. Je sais pas quel âge vous avez, mais ce que vous avez dit alors là, les quelques mots. Alors on a dépensé des billes et on est désexcité. C'est à cause de ça qu'on 70% des jeunes ne vont pas voter, monsieur. Parce que vous représentez, vous, ça fait 40 ans que vous mangez avec les politiques, que vous connaissez ces gens-là. Ça fait 40 ans que il y a rien qui bouge. Et en fait, comment vous nous traitez de débiles? Nous, on est une génération de jeunes. On a 25 ans, moins de 25 ans. J'ai mes potes, des filles, des garçons, des gens qui sont en études, qui sont pas en études de toute la société. Merci les réseaux sociaux, on a beaucoup de monde. Ces gens-là, le soir, ils s'endorment en pleurs. Parce que leur monde qu'on est en train de leur laisser, le monde que vous êtes en train de nous laisser, parce que c'est votre génération et celle d'après que vous êtes en train de nous laisser. Et plus qu'inquiétant, quand j'entends ce matin, Apolline, dans un beau journal, qu'il y a des gosses qui ont le nez qui coule de sang, mais Mais où est-ce qu'on est en fait enfin, où est-ce qu'on est? Vous nous dites que tout simplement on devrait. Qu'est-ce qu'on devrait faire en fait?
Mais on entend parfaitement votre cri de désespoir et c'est important aussi de pouvoir l'exprimer, Nathaniel. Et je comprends votre émotion. Vous avez quel âge d'abord?
J'ai 25 ans.
25 ans. Et vous êtes un militant du quotidien. Comment vous faites?
Moi, je suis autonome déjà.
Et ensuite, je voudrais que Thierry puisse évidemment répondre.
Je suis autonome. Je vais pas me mettre dans un groupe comme Extinction Rébellion ou Dernière Rénovation parce que je suis pas en accord avec l'écologie punitive, comme on appelle ça. Mmh. Je suis pas en accord avec comme vous disiez tout à l'heure, Apolline, par rapport à vos enfants. Je suis pas pour le fait de culpabiliser les gens. Oh, vous avez fait des enfants. Oh, vous avez acheté une voiture, le dernier BM. Oh, vous avez acheté tel truc. Vous avez acheté tel truc. C'est pas en culpabilisant l'individu qu'on arrivera à faire évoluer quelque chose. Je pense que c'est vraiment quelque chose de global. Et c'est vraiment générationnel également parce que nous, notre génération, on le voit concrètement dans nos effets du quotidien. Enfin, ça fait j'ai 25 ans, ça fait 25 ans que j'entends parler du réchauffement climatique, que ça change, etc. On commence à le ressentir dans notre chair.
Mais vous le vivez comment du coup, Nathaniel, quand vous dites moi je suis devenu autonome, c'est-à-dire qu'en fait vous réussissez à vous passer de la consommation.
C'est
une forme d'autarcie. C'est quoi?
Alors c'est plus compliqué que ça parce que du coup on est quand même dans une société où on vit avec des gens où si tu veux avoir des amis, etc. Tu peux pas forcément faire le mec le plus
vivre tout seul dans sa grotte.
C'est exactement ça. Soit on va vivre dans une grotte, soit on fait partie du système et on est dans le système. Et même même sa chatte tout à l'heure, elle fait partie également du système. Elle est dans ce truc là donc c'est vraiment un truc global. Moi je pense concrètement ce que je vis en tout cas à un niveau individuel, c'est l'autonomie. Ne plus dépendre d'un supermarché par exemple, parce que les supermarchés c'est 3 jours d'autonomie alimentaire à Paris. S'il y a une couille à Rungis, ils ont plus de c'est 3 jours d'autonomie alimentaire pour les grandes villes, hein. c'est quand même hallucinant. Donc se passer des supermarchés parce qu'on risque de, voilà, si jamais on a vu pendant le Covid il y a des problèmes
être
de
prêt à tout quoi, être prêt à tout, il y a une forme de aussi voilà. être capable de survivre à tout.
Plus revenir à quelque chose d'antan en fait. Ça veut pas dire revenir au Moyen-Âge, ça veut dire regarder comment vivaient nos anciens, nos grands-parents, voilà, dans les années, les parents pour certains de plus âgés, dans les années on va dire 40-50 après-guerre. Il y a eu quelque chose. Alors oui, il y a eu une croissance, le climat, on savait pas, on allait construire, on allait évoluer, fallait reconstruire, etc. Mais ces gens-là vivaient proche de la terre, proche de leurs animaux, proche de leur forêt. Ils essayaient un maximum de protéger tout
ça. Et proche tout court, au sens où ils n'allaient pas forcément extrêmement loin. C'est aussi un rapport à l'espace et à la distance qui est différent. Nathaniel, je trouve que c'est important aussi que Thierry Coste puisse dialoguer avec vous, Thierry.
Allez-y. Mais Nathaniel, je trouve qu'il a raison quand il dit je suis pas un anti-tout, je suis pas pour la décroissance, je suis quelqu'un qui veut la transition. Non mais il m'accuse pourquoi? Il m'accuse parce que j'ai cette image de lobbyiste, etc. Et que certes j'ai des cheveux blancs, donc c'est vrai que j'ai sévi pendant un moment. Mais il faut juste qu'il comprenne. Moi je vis dans un petit village. Hein, j'ai un énorme jardin, j'ai des poules, je coupe mes arbres, je suis en solaire sur toute ma maison, et bien évidemment j'ai un comportement qui est de choisir les plantes qu'il faut garder parce que je vis en Méditerranée. J'ai toujours défendu les pompiers et les forestiers sur la stratégie des feux de forêt. Il faut être réaliste, il a raison, il faut un comportement individuel qui n'est pas de pousser à l'extrême en disant on veut plus rien comme Rébellion le veut, mais il faut que chacun s'adapte et il faut qu'on bouge les lignes. Moi, ça fait 40 ans que je mets la pression.
À titre individuel,
individuel, c'est plus écolo que moi, ça doit être difficile. Par contre, je me suis toujours battu pour que les maires, c'est François Mitterrand qui avait lancé un plan vert pour l'environnement à la fin des années 80, pour qu'on change la politique environnementale dans chaque commune de France, en matière d'inondation, en matière de feux de forêt, en matière de déchets. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que, effectivement, il y a une grande résistance de l'administration, une grande résistance générale, en disant non, la technicité, la modernité, c'est de couper des arbres et c'est de faire autrement.
Nathaniel, est-ce que vous entendez ça?
Ouais, vous m'entendez toujours, monsieur?
Oui, ça y est, je vous entends. Ouais.
Moi, je suis un passionné de nature.
Une question, monsieur Coste. Est-ce qu'un entrepôt Amazon est vital?
Aujourd'hui, la réponse.
Je pense que la réponse, elle est plus
aujourd'hui,
complexe.
Aujourd'hui, la réponse, elle est oui. C'est le dimensionnement, éventuellement, qui peut poser un énorme problème. Parce que quand on en fait un par région, c'est très rentable pour Amazon, mais ça provoque une catastrophe en matière de transport. Mais bien évidemment, on est on est condamné quand même à tenir compte d'un monde qui n'est pas tout à fait celui que j'ai moi quand je vais chercher les légumes dans mon jardin.
Le fond du problème, est-ce que tu es prêt à renoncer à un peu de confort, à faire cet effort-là dans le futur pour la planète?
Mais la réalité, c'est que moi, je le pratique depuis 40 ans. Sauf que, comme je suis un horrible lobbyiste assumé, on ne le sait pas. Donc, je vous remercie.
Mais ce matin, c'était l'occasion de le dire.
Coming out écolo.